Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Maxime Schwartz. Maxime, tu es avant tout biologiste, mais aussi un peu historien, beaucoup historien peut-être, et spécialiste en particulier de Pasteur. Tu es ancien directeur de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler du ressenti des scientifiques français pendant la guerre 14. C'est bien comme programme ?
Ça me paraît tout à fait raisonnable.
Eh bien, c'est parfait.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Alors peut-être en introduction, tu pourrais nous brosser rapidement ce que on a tous appris à l'école primaire ou au collège, la guerre de 70, le ressenti des Français vis-à-vis des Allemands, juste avant la guerre.
Oui, mais la guerre de 70 a été un drame pour tous les Français, et en particulier pour mon héros qui est Pasteur. C'est en fait Napoléon III qui a déclaré la guerre, et il pensait que l'armée française était la plus forte. Elle s'est fait balayer en quelques jours. Donc la France a perdu la guerre. La perte de l'Alsace et de la Lorraine en particulier a été très durement ressentie par tout le peuple français. Il est resté à partir de ce moment-là un esprit de revanche, de pouvoir battre à notre tour les Prussiens qui sont devenus partie de l'Allemagne et de récupérer l'Alsace et la Lorraine.
Mais on dit toujours que les scientifiques ont une vue beaucoup plus internationale, qu'ils sont ouverts à des idées différentes. Est-ce qu'à cette époque, les scientifiques passaient les frontières, en quelque sorte ?
Il y avait les deux cas. Quelqu'un comme Pasteur, qui était très pro-allemand, pro-germanique au début de sa carrière, est devenu terriblement anti-allemand, et ça a duré jusqu'à sa mort en 95. Par contre, il avait un collaborateur, Émile Roux, qui était très important pour la découverte de la sérothérapie, qui en fait a conservé des liens très étroits avec un grand scientifique allemand qui est Émile Behring. Et c'est en fait à la fois à Behring et Roux qu'on doit la sérothérapie. Donc je pense qu'il y a eu les deux classes de scientifiques.
Il y a, dans mon domaine des mathématiques, aussi une interaction entre deux mathématiciens très célèbres, Henri Poincaré d'un côté, et de l'autre côté, Félix Klein, qui échange une trentaine de lettres mémorables et tout à fait passionnantes d'un point de vue scientifique. Poincaré qui parlait parfaitement l'allemand puisqu'il était né à Nancy dans ces époques un peu difficiles, et Félix Klein qui parlait parfaitement le français. Poincaré écrivait en français et Félix Klein répondait en allemand. Donc une espèce de connivence qui existait pendant ces époques difficiles de lutte franco-allemande.
Oui, oui, pour certains d'entre eux.
Alors, la guerre commence en août 14. On connaît peu d'enregistrements des bruits auxquels étaient soumis les poilus pendant la guerre 14 dans les tranchées. Vous entendez là une reconstitution produite par la BBC.
Oui, la guerre commence en août 14 et pour ce qui est de la guerre contre la France, puisque c'est devenu une guerre internationale, elle a commencé en fait par l'invasion de la Belgique, qui était un pays neutre. Les Allemands sont entrés là, ont fait apparemment des atrocités épouvantables, et il y a commencé à avoir des critiques dans toute l'Europe et même le monde concernant la façon dont les Allemands se comportaient en Belgique. Les Allemands ont été très mécontents de cette réaction. Et il y a eu une réunion d'un très grand nombre de très grands scientifiques, d'artistes du monde, donc des arts, des sciences, etc., qui ont écrit ce qu'on a appelé en France le manifeste des 93, puisqu'il y avait 93 Allemands.
Intellectuels, littéraires, musiciens.
Mais de tout genre, et c'est assez intéressant parce que j'ai cité Behring et tu as cité Klein. ils faisaient partie des signataires de ce manifeste des 93. Il y a eu aussi Fritz Haber, qui était très, très connu, Max Planck, Röntgen, donc vraiment des scientifiques de très haut niveau. Il y a eu aussi d'ailleurs Siegfried Wagner, qui était le fils de Richard Wagner.
Et donc ce manifeste, c'était « Nous, les Allemands, nous n'y sommes pour rien ».
Eh bien, c'était ça l'idée. En fait, il commençait en disant « Nous, les représentants de la science et de l'art allemand, protestons solennellement devant le monde civilisé entier contre les mensonges et calomnies dont nos amis tâchent de salir notre cause pure et bonne. » Et après, il y a toute une série de répétitions, des anaphores où il disait à chaque fois « Il n'est pas vrai que… » Ça commence en disant « Il n'est pas vrai que l'Allemagne soit coupable de cette guerre. Il n'est pas vrai que nous allions violer criminellement la neutralité de la Belgique, etc. etc. »
Alors, dirais que ce sont des mensonges ou bien du manque d'informations ?
Ah, là, moi, je n'étais pas là, mais je penserais que c'était quand même plus ou moins des mensonges. De dire que l'Allemagne ne soit pas coupable de la guerre, c'est quand même eux qui ont déclaré la guerre. Et de dire qu'il n'y a pas eu du tout de malversation, de méfaits vis-à-vis des Belges, c'est certainement faux. Donc, il y a des tas de choses qui sont fausses.
Mais à l'époque, on n'avait pas la télévision en permanence.
Certes non, même pas du tout.
Non, c'est-à-dire, est-ce que l'information allemande cachait ces vérités ?
Peut-être que les intellectuels n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait, mais enfin, ça semble un peu étonnant.
Alors, les Français reçoivent ce truc et...
Les Français, c'est le monde entier, car c'était destiné au monde entier.
Ce manifeste est bien sûr écrit en allemand.
Ah ben oui, c'était... le titre, c'est « Aufruf an die Kulturwelt », mais qu'on a appelé en français le manifeste des 93. Donc c'était en allemand, mais bon, les gens l'ont compris dans beaucoup de pays. Donc il y a eu à ce moment-là une réaction dans beaucoup de pays européens, mais l'Académie des sciences en tant que telle a estimé qu'il s'était essentiel de répondre à ce manifeste. Et donc l'Académie des sciences, il faut voir ce manifeste, il date du 4 octobre 1914. La guerre venait de commencer et le 3 novembre, donc l'Académie des sciences adopte à l'unanimité un texte où... je ne vais pas vous le dire en entier, mais ça commence par l'Académie des sciences s'associe aux protestations faites par les autres académies de l'Institut de France. Il n'y avait pas que l'Académie des sciences, et elle veut, comme elle, exprimer son indignation contre la façon dont un peuple qui prétend imposer sa culture au monde viole les engagements les plus solennels. Ça continue, évidemment. Et alors, après avoir fait cette déclaration, il va y avoir une autre réunion de l'Académie des sciences, où elle va décider de prendre des mesures. Et ces mesures qu'elle propose, c'est qu'on exclut les membres correspondants ou les membres de l'Académie des sciences, les membres qui ont signé ce fameux manifeste des 93.
Et alors, parmi les scientifiques, il y en avait combien ?
Il n'y avait que 4 ou 5 scientifiques. C'était plus symbolique, disons. Alors, tous les membres de l'Académie des sciences n'étaient pas d'accord avec cette mesure. Et un exemple, c'est Émile Roux, justement, qui à ce moment-là était le directeur de l'Institut Pasteur, qui avait été le bras droit de Pasteur, et qui estimait que ce n'était pas à l'Académie des sciences de prendre une position morale, que ce n'était pas son rôle, et que, d'une part, ce n'était pas bon pour l'Académie, parce que ça montrait que, finalement, ces titres, on pouvait supprimer un académicien des sciences, que ce n'était pas une bonne idée, et que, quant à la patrie, ce n'était pas bon pour elle non plus, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était gagner la guerre, et ce n'était pas le fait d'exclure 4 académiciens qui allaient changer grand-chose. Donc, Émile Roux et quelques autres se sont opposés à cette mesure d'exclusion. En définitive, la décision a été prise et les académiciens en question ont été exclus.
Il y a eu des remous, des conséquences
Je ne crois pas, finalement, c'était quatre scientifiques qui ont été exclus. Ça n'était pas quelque chose de majeur.
Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Après, ça a été la guerre proprement dite. Et là, bien entendu, les académiciens des sciences, comme bon nombre de scientifiques, ont participé à l'effort de guerre d'une façon quelconque. Bon, les académiciens eux-mêmes n'étaient pas mobilisés, vu leur âge, mais ils ont beaucoup pu participer dans des tas de domaines différents. En chimie, par exemple, pour les explosifs, les explosifs d'abord, les gaz effectivement de combat, c'est un exemple. Bon, il y a eu
les gaz de combat sont des gaz allemands ou français?
Au départ, c'était les Allemands qui ont commencé avec les gaz de combat. Et puis, ensuite, en fait, c'est l'Institut Pasteur qui a commencé les travaux pour, d'une part, protéger contre les gaz de combat et, d'autre part, pour faire nous-mêmes nos gaz de combat. Donc, il y a eu beaucoup de disciplines qui sont intervenues. Il faut peut-être dire, et moi particulièrement, je souhaite dire ce qui s'est passé sur le plan de la santé et du rôle des pasteuriens. Parce que pendant cette guerre-là, il y a énormément de blessés très graves dus aux éclats d'obus. C'était quelque chose de nouveau dans la guerre. Et donc, il fallait pouvoir apporter des soins à ces blessés. Et dans ce domaine, l'Institut Pasteur, c'est pas le seul, mais l'Institut Pasteur a joué un rôle important par exemple, dû au fait que quand on recevait un éclat d'obus, souvent l'éclat d'obus, il était très sale, il y avait de la terre, il y avait du crottin de cheval, et dans le crottin de cheval, il y a du bacille tétanique. Vous savez qu'il y a un nombre incroyable de chevaux qui sont intervenus dans la guerre. Et donc, il y avait un gros risque d'attraper le tétanos quand on avait une blessure profonde due à un éclat d'obus. Et c'est l'Institut Pasteur, en fait, c'est Roux qui a vraiment mis au point le sérum antitétanique qui permet d'éviter qu'on ait le tétanos quand on a été infecté. Et donc l'Institut Pasteur a fabriqué de très grandes quantités de sérum antitétanique et l'a produit pour l'armée. C'est aussi l'Institut Pasteur avec le Val-de-Grâce qui a produit en grande quantité un vaccin contre la typhoïde, ce qui était très important parce qu'il y avait toujours des épidémies de typhoïde pendant les guerres et ça avait commencé à cette guerre-là.
Marie Curie aussi.
Alors c'est un autre exemple, bien entendu, célèbre, Marie Curie et sa fille qui ont apporté la radiologie sur le champ de bataille. Il y a eu un rôle très important des scientifiques, et notamment de membres de l'Académie des sciences. Marie Curie, c'était pas un bon exemple, puisqu'elle n'a pas été acceptée à l'Académie des sciences. Mais Roux, à l'époque, était membre de l'Académie des sciences.
Puisqu'on parle de scientifiques trop âgés pour être au front, on peut en réciproquement parler des nombreux scientifiques jeunes qui ont été décimés. Il suffit d'aller faire un tour à l'École normale supérieure au Monument aux morts. C'est extrêmement poignant de voir des promotions entières de jeunes normaliens qui se faisaient décimer au sens propre.
Ça, c'est certain. D'un côté, la guerre a favorisé le développement de la science, de certains aspects de la science. D'un autre côté, la conséquence sans doute la plus néfaste, c'est celle que tu mentionnes, c'est-à-dire que des tas de jeunes scientifiques, de jeunes espoirs ont été tués sur les champs de bataille. Ça, c'est certain.
Là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée.
Parlons maintenant
de la fin de la guerre.
La fin de la guerre, puisqu'on a parlé du début, voilà. Du milieu, et maintenant de la fin.
Oui, à la fin de la guerre, il y a eu une nouvelle position de l'Académie des sciences, qui a été en fait un petit peu, en partie, l'instigation d'académiciens qui étaient à Lille, où Lille avait été occupée pendant 4 ans, où il y avait eu des malversations multiples des Allemands. Et parmi eux, il y avait aussi un pasteurien qui était Albert Calmette, le futur co-découvreur du BCG. Donc ces quatre académiciens, il y avait Académie des sciences et Académie de médecine, qui avaient vu tout cela, ont estimé qu'il fallait absolument faire quelque chose. On ne pouvait pas ne pas avoir une réaction vis-à-vis de tout cela. L'île venait tout juste d'être libérée, donc c'était au mois d'octobre. Ces personnes énumèrent les atrocités qui ont été imposées par l'occupation. À leurs yeux, il n'y avait pas de distinction à faire entre les dirigeants politiques qui ont voulu cette guerre et le peuple en armes qui l'a approuvé et l'a résolument poursuivi, sans sursaut d'indignation. Et alors, il se déclare résolu à ne collaborer désormais à aucune publication allemande, à ne participer à aucune réunion scientifique, à aucun congrès international aux côtés de collègues allemands qui n'auraient point préalablement marqué par une manifestation publique leur désapprobation des actes antisociaux accomplis à l'occasion ou au cours de cette guerre par leur gouvernement. Et ils invitaient, donc ça c'était une lettre qui était envoyée à l'Académie des sciences depuis Lille où ils étaient encore, et ils invitaient leurs collègues des 5 académies de l'Institut, de l'Académie de médecine et de l'Académie d'agriculture à se solidariser avec eux. Et alors, il y a eu un total soutien de ceci au niveau de l'Académie des sciences, laquelle avait déjà commencé à s'engager dans cette voie-là. Et en fait, ça dépassait l'Académie des sciences, puisqu'il y avait eu une conférence interalliée des académies scientifiques qui s'est réunie à Londres les 9, 10 et 11 octobre. C'était avant l'armistice, mais bon, Lille était déjà libérée à ce moment-là. Donc, on voyait quand même que la victoire était proche. Donc, la décision qui a été prise, c'était en gros celle que je viens de dire, c'est-à-dire refus de participer à tout congrès, à toute publication. On parlait en termes d'éternité. Bon, on était encore à la fin de la guerre, etc. On n'allait pas dire c'était pendant 2 ans, c'est pendant 3 ans. Donc, c'était pas de précision donnée sur la durée. Et donc, ceci a été le cas pendant un certain temps. Et en fait, notre regretté Jean-Pierre Kahan, qui a fait un exposé à la réunion des 5 académies de 2014, a fait la remarque que finalement, bon, l'idée de départ, c'était d'isoler les Allemands sur le plan scientifique, mais de fait, il se trouve qu'un pays comme la France a beaucoup plus souffert de cela que l'Allemagne. Et qu'après la guerre, l'Allemagne s'est développée sur le plan scientifique beaucoup plus rapidement que la France. Et que la France, finalement, n'a commencé à revenir sur le devant de la scène que lorsque les réunions, les collaborations avec l'Allemagne ont recommencé. La guerre de 14 a quand même été quelque chose d'épouvantable. Donc l'idée de se venger par les moyens scientifiques de ces gens-là peut être compréhensible. Mais assez rapidement, il s'est avéré que ce n'était pas une si bonne idée.
Mon souvenir s'éteindrait comme mort, un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable au mimosa.
Je me demande si ce que tu viens de nous raconter peut avoir des implications aujourd'hui avec d'autres guerres que nous vivons.
C'est pas impossible. Mais moi, je peux quand même voir une chose au niveau de l'Institut Pasteur, c'est que l'un des instituts Pasteur, parmi les premiers qui a été créé, c'est celui de Saint-Pétersbourg. Et depuis l'invasion de l'Ukraine, tout contact est terminé, enfin suspendu, avec l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg. Donc,
le point de vue du CNRS, et j'imagine l'Institut Pasteur doit être le même, c'est que tout contact institutionnel est suspendu, mais rien n'empêche d'avoir des contacts individuels.
Et puis mon souvenir éclaté dans l'espace couvrirait.
Vous avez bien sûr reconnu Georges Brassens, la guerre 14-18.
La mer
et peut-être Jean Ferrat chantant
une étoile qui
un
passe,
poème d'Apollinaire, si je mourais là-bas.
Mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or.
Merci beaucoup, Maxime.
Il n'y a pas de quoi. Merci à toi.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Canal Académie, le podcast de l'Académie des sciences.